N'insiste pas quand je me lance et que tu penses m'arrêter. N'insiste pas quand je te dis que tes gestes ont parlé. N'insiste pas quand je dis non. N'insiste pas sans condition. N'insiste pas, ouais. N'insiste pas quand je balance des mots doux mais plus à toi. N'insiste pas, sans toi j'avance et je ne te laisse plus le choix. N'insiste pas, jamais je veux enterrer tes regrets. N'insiste pas, n'insiste pas. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Faut que tu me laisses, qu'un jour tout s'arrête. Fini les promesses qui tournent, tournent dans ma tête. Tournent, tournent dans ma tête.
Bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral. Si vous nous rejoignez aujourd'hui, donc une émission toute particulière autour des violences faites aux femmes, puisque c'est un fléau qui malheureusement ne s'arrête jamais. Il y a toujours des féminicides chaque année et c'est toujours une question dramatique. Pour nous parler de son expérience douloureuse, Audrey est notre invitée à Fréquence Mistral. Audrey, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez choisi de parler de votre expérience de femme violentée pendant des années, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça. Alors, je l'ai rencontrée, j'avais 17 ans. Je venais d'arrêter l'école, je venais d'avoir mes diplômes de secrétariat. Et donc, ce monsieur cherchait une secrétaire. Donc, il a commencé à être mon patron. Mais très rapidement, on s'est mis ensemble, à habiter directement ensemble. Et les violences ont commencé, on va dire, dans les 2 mois qui suivaient.
Donc c'était votre patron ?
Oui.
Donc beaucoup plus âgé que vous ?
Oui, 16 ans de différence.
16 ans de différence.
Oui. Donc je l'ai rencontré que j'avais 17 ans et rapidement je suis tombée enceinte. Et puis moi j'étais toute jeune et naïve. Donc je pensais que c'était l'homme de ma vie et que ce qu'il faisait c'était tout à fait normal. Je venais d'une famille, j'étais élevée par ma grand-mère, donc où qu'on devait aller jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire quand on se mettait avec quelqu'un, il n'y avait pas de séparation, il fallait vraiment assumer et faire tout ce qu'il fallait pour que la relation dure. Alors on n'a pas été mariés à la mairie, on a eu un mariage religieux, parce que c'est pareil, rapidement j'ai pris sa religion. La religion s'est installée vraiment doucement, doucement. Pour finir, à la fin, dans une extrême du mauvais côté.
Mmh. Donc, mariée à 17 ans, 18 ans, 19 ans ?
J'avais 19 ans.
19 ans. Après, donc, 2 ans de vie commune, pratiquement.
Oui.
Et un premier enfant ?
Alors, à 19 ans, j'allais avoir mon deuxième enfant, déjà. Les deux premiers ont 2 ans d'écart. Et donc, une fois que j'avais accouché et que l'enfant commençait à marcher, il fallait refaire un enfant derrière.
Et vous parlez de violences qui ont commencé déjà avant la grossesse ?
Oui, oui. Les violences se sont installées très rapidement. Alors, au début, ce n'était pas vraiment des violences physiques. C'était beaucoup de violences verbales. Les violences physiques, je dirais que ça a commencé pendant la grossesse de mon fils. Ou que là, il ne supportait pas, ou que j'ai un corps difforme. Où il ne supportait pas que j'avais beaucoup d'attention au niveau de la grossesse. Donc, j'avais plus l'attention que je lui portais qu'à lui. Et ça, tout ça, il ne supportait pas. C'était des coups, beaucoup d'insultes aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je n'avais pas la liberté. Donc, on faisait tout ensemble. Alors, les coups, ils ont commencé quand moi, j'étais enceinte. Donc, il y avait des examens à passer, gynécologiques. Chose que moi, je n'avais jamais fait aussi auparavant. Et donc, il ne supportait pas qu'un médecin me touche. Et au niveau de la grossesse, après, c'était des insultes comme quoi ce n'était pas son enfant. Donc, il fallait que je prouve que c'était son enfant et que je n'avais pas été voir ailleurs. C'était vraiment insupportable parce que moi, c'était le premier homme de ma vie.
Oui.
Et donc, déjà, j'étais quelqu'un qui était très timide. Et tout ce qui était rapport sexuel, c'était très compliqué pour moi. Donc, je ne me voyais pas déjà, comme j'avais commencé avec lui, je ne me voyais pas aller voir quelqu'un d'autre déjà. Mmh. Pour moi, je pensais que c'était juste un passage et qu'il allait se raisonner et que tout allait rentrer dans l'ordre. Sauf qu'au fur et à mesure, et ben, en fait, c'est les complications qui arrivent. C'est-à-dire qu'il se raisonne sur un point et après, il trouve une autre excuse pour donner les coups, pour les insultes.
Et comment vous avez vécu, vous, ces premiers coups? Est-ce que vous vous êtes posé des questions sur vous? Est-ce qu'il s'est excusé après, comme on l'entend souvent?
Je ne me suis pas posé plus de questions que ça. Parce que j'avais un peu l'image, une image ringard entre guillemets, de la femme reste à la maison, elle fait la cuisine et c'est le mari qui travaille, quoi. Donc pour moi, s'il me donnait des coups, en fait, il avait peut-être des bonnes excuses, quoi. Alors peut-être pas les bonnes de ce qu'il disait, mais peut-être que j'avais fait moi quelque chose de mal, en fait. Je me remettais toujours en question. Et puis après, il y a aussi, on pense que les gens vont changer, que finalement on va avoir un enfant et on se dit l'enfant va nous rassembler et puis ça va arranger les choses.
Est-ce qu'il a souhaité cet enfant au départ ou...
Oui. Oui. Alors j'étais très jeune et moi j'étais plutôt dans partie pour une situation professionnelle. Il fallait que j'évolue dans ma situation professionnelle. Et lui était plus âgé que moi, et lui était parti donc plus sur une famille.
Et est-ce que sa relation a changé quand il y a eu l'arrivée du bébé ou...
Oh non, ça a été une catastrophe à l'arrivée du bébé. Parce qu'un bébé, ça prend beaucoup de temps, ça pleure, ça fait du bruit. Du coup, là, ça a été une descente aux enfers, en fait. Donc, il y a eu des périodes où il me mettait dehors avec le bébé. Il y a eu beaucoup de périodes là où c'était très, très violent. Ou que je passais mes nuits à me demander si j'allais vivre. Et puis beaucoup, toujours le système de rabaisser les gens. Donc c'était beaucoup comme quoi je pouvais rien faire sans lui, que j'avais plus de famille, que je pouvais que compter que sur lui, que j'étais incapable de faire quelque chose. Et moi, je me suis écartée tout doucement aussi de ma famille. On n'habitait pas dans la même ville, on a déménagé plus loin. Donc,
vous étiez seule?
Oui. Alors, seul, oui et non, c'est-à-dire que j'habitais pas très loin à ce moment-là de ma famille, on avait à peu près 50 kilomètres, mais il interdisait mes parents de venir, il interdisait toute ma famille de venir, même mes sœurs, parce que, du moins que lui n'était pas là, personne ne pouvait rentrer à la maison. Et puis après, ça a été les appels téléphoniques, qui ont été supprimés aussi. Parce que je passais du temps au téléphone et que je donnais des nouvelles et on ne savait pas ce que je pouvais dire au téléphone.
Donc, plus de téléphone?
Non, j'ai plus de téléphone. J'avais qu'un téléphone fixe pour le travail parce qu'il avait une société de maçonnerie. Donc, je continuais à travailler de la maison. Et de là, en fait, il m'a coupé tout doucement. Donc, le téléphone fixe fonctionnait. Il demandait la facture détaillée. En ce temps-là, on pouvait avoir toute la facture. Et puis, il fallait chronométrer le temps des appels et que les appels correspondent bien au travail.
Donc, vous continuiez à travailler pour lui. Vous aviez des fiches de salaire, c'était déclaré?
Oui, à ce moment-là, j'étais déclarée. J'étais déclarée comme secrétaire.
Comment vous avez fait pour ressortir, donc, parce que vous êtes séparée depuis peu,
oui,
finalement?
Ça va faire 2 ans le mois prochain.
Et après combien de vies communes?
18 ans, presque 19
18 ans.
Oui.
Presque 19 ans. Et donc, il n'y a pas eu qu'un enfant,
mais il y en a eu... Non, il y en a eu 4.
4 enfants.
Oui.
Et comment vous expliquez que vous avez tenu si longtemps, 19 ans, avec cet homme qui vous violentait? Pendant 19 ans, ça a été le cauchemar?
Oui, pendant 19 ans, ça a été vraiment le cauchemar. C'est-à-dire que, en fait, les gens extérieurs ne s'en rendent pas compte. Mais quand on se retrouve écarté de sa famille... est complètement sous emprise, parce qu'il y a un gros système d'emprise. C'est-à-dire que la personne vous violente, limite à vous tuer, et puis le lendemain, c'est une personne qui est complètement adorable, où on peut lui demander n'importe quoi, et il ferait n'importe quoi pour vous faire plaisir.
Est-ce qu'il s'excuse à chaque fois qu'il a été violent?
Alors, au début, oui, il s'excusait, prétestant qu'il avait une enfance difficile et que... que dans son pays, puisque pareil, il est d'origine étrangère, donc dans son pays, ça fonctionnait comme ça. Et donc, moi, comme j'avais accepté ses coutumes et sa religion, et ben en fin de compte, il fallait que j'assume jusqu'au bout, quoi. À l'origine, j'étais chrétienne, mais j'étais habillée comme une Française, donc ça ne passait pas du tout. Donc le lendemain de mon arrivée, il a fallu que j'aille voir un imam, que je mette le foulard, la longue robe, et que je fasse mon changement de religion auprès d'un imam pour que ça soit vraiment officiel.
Alors que vous l'aviez déjà fait en France ?
Oui, alors moi j'avais accepté sa religion et je suivais complètement sa religion, mais ça n'était pas passé par un imam.
Ah d'accord.
Donc il n'y avait rien d'officiel au niveau de sa famille. Donc j'ai fait mon changement de religion et de là, en fait, moi on ne m'avait pas expliqué la totalité de la religion. Donc pour moi ça s'arrêtait à juste pas manger de porc et puis que la femme elle fasse beaucoup de choses pour son mari, mais dans le raisonnable quand même. Et une fois que j'ai eu ce changement de religion, et là, ça a été la catastrophe.
C'est-à-dire, ça voulait dire quoi dans le quotidien ?
Dans le quotidien, ça voulait dire que le mari pouvait taper la femme et qu'il n'y avait rien de bizarre dedans.
Ah oui, ça fait partie de la religion.
Ah oui, et la femme devait être complètement soumise. Mais, alors, ça faisait partie de sa religion à lui. C'est-à-dire que lui voyait la religion comme ça. Après, la religion en elle-même, elle n'est pas vraiment comme ça. Ça voilà, dépend comment qu'elle a interprété.
C'est un peu interprété à sa façon.
Voilà. Donc, moi, j'ai eu les points. Après avoir changé ma religion, j'ai eu la mise à jour de ma nouvelle version. Donc, la femme complètement soumise, qui doit se laisser taper, qui doit faire tout pour son mari. Et puis, c'était le mari en premier, toujours. Et les enfants, ils comptaient plus vraiment, quoi. Et moi, là, par contre, j'ai eu beaucoup de mal. C'est-à-dire que j'ai accepté des choses et je n'ai pas tout accepté.
Parce que les enfants ne comptaient plus vraiment, ça veut dire quoi ?
Et ben, ça voulait dire que ben, si les enfants pleuraient, mais que monsieur avait décidé qu'il faut les laisser pleurer, et ben, je n'avais pas le droit d'approcher les enfants.
Et ça, c'est ce qui vous a décidé à le quitter ?
Alors non, puisque ça, c'était tout au début, à partir du deuxième enfant. Ce qui m'a poussée à le quitter, alors je ne l'ai pas choisi. En fait, on a eu une grosse dispute, c'était un vendredi matin. On a eu une grosse dispute et donc mon fils était terrorisé parce qu'il croyait que j'étais morte dans la maison. Donc lui a mis en protection ses sœurs, il les a enfermées dans une chambre.
Donc lui qui avait quel âge ?
À ce moment-là, il avait 15 ans.
15 ans.
15 ans. Il a mis en protection ses sœurs dans une chambre. Ses sœurs ont poussé des meubles contre la porte pour pas qu'ils puissent ouvrir la
parce
porte.
Est-ce qu'il était violent avec les enfants aussi ?
Oui. Il était violent aussi avec
depuis
les enfants.
Depuis le début ?
Non. En fait, les 5 dernières années de vie commune, on était complètement séquestrés dans la maison. Les enfants faisaient école à domicile. Ils n'avaient pas le droit d'avoir de vie sociale. Ils restaient, pareil, enfermés dans la maison. Et même pour sortir, quoi, c'était très rare qu'ils sortaient. Ou alors, ils prenaient un enfant pour aller faire les courses, pour que les gens voient qu'ils sortaient les enfants. Mais sinon, on a resté 5 ans enfermés dans cette maison. Et donc, c'est à ce moment-là que donc, mon fils a enfermé ses sœurs dans une chambre. Et il a pris un téléphone portable. Et il a été se cacher dans notre cour, en dessous d'un camion. Et il a appelé les gendarmes. Alors, les gendarmes sont intervenus très rapidement, par contre. Et quand les gendarmes... Quand on avait une grande allée devant la maison, et quand il a vu les gendarmes arriver, et ben là, il s'est complètement calmé. Et il était tout gentil.
Il a eu peur ?
Il a eu peur, oui. Parce que ça n'était jamais arrivé. On n'a jamais eu de problème avec la justice. Donc, les gendarmes n'ont jamais intervenu à la maison. Et là, le fait de voir les gendarmes... complètement calmé, un amour, quoi. Et les gendarmes ont frappé à la porte et ils m'ont simplement demandé si ça allait. Et moi, j'ai dit oui, ça va, il n'y a pas de problème, tout va bien. Sauf que j'avais des coups sur la figure. Et là, ils nous ont demandé de rentrer dans la maison pour voir si tout allait bien. Et en rentrant dans la maison, ils ont bien vu que la maison était complètement retournée et que j'avais peur, quoi. Et donc, ils nous ont séparés directement. Ils m'ont fait mettre dans une pièce, dans une chambre. De là, moi j'ai dit que je ne voulais pas qu'il y ait de poursuite, que c'était mon mari et qu'on n'avait pas de problème. Voilà. Et donc, elle m'a fait. J'avais une armoire avec une grande glace. Et elle m'a fait regarder dans la glace. Et ma figure était toute bleue. Mmh. Et donc, elle a dû me prendre en photo pour envoyer au procureur, puisqu'elle voulait faire à tout prix un signalement. J'ai dû me déshabiller complètement. J'étais en sous-vêtements. Et j'avais des bleus partout sur le corps. Et donc, de là, ça s'enchaînait très rapidement. Elle prenait en photo qu'elle envoyait directement au procureur. Le procureur a prononcé directement une garde à vue. Donc elle m'a expliqué pour la suite comment ça allait se passer et qu'il fallait que je dépose plainte au commissariat à Fort-Calquier. Moi, je refusais de porter plainte. Et je suis tombée sur, alors je ne sais plus, on dit brigadier, je pense, mm-hmm. quelqu'un de supérieur de la gendarmerie de Sérestre, qui était de garde puisque c'était le vendredi, et qui est resté toute la nuit avec moi au téléphone. Pour me rassurer, pour m'expliquer ce qui allait se passer par la suite, pour m'expliquer qu'il ne fallait pas que je reste dans ces conditions-là, parce que moi, je restais ferme en disant « je veux que mon mari rentre à la maison mmh. et qu'on reprenne une vie comme avant ». Et finalement, on est venu à une discussion avec les enfants. Et les enfants étaient terrorisés et ils ne supportaient plus non plus la situation. Et moi, j'étais arrivée dans un état, que ce soit mental ou physique, catastrophique. Je faisais 38 kilos. Et là, on s'est dit avec les enfants, ben, ça va être compliqué, mais finalement, il faut sortir de là, quoi. Mmh. Et puis reprendre une vie correcte. Donc, le samedi matin, les gendarmes sont venus chez moi, puisque je n'avais pas de véhicule. Alors ça, je tiens à le préciser, parce que beaucoup de femmes qui n'ont rien, qui n'ont pas de voiture, qui sont isolées, les gendarmes se déplacent au domicile et nous transportent jusque le commissariat, donc de Fort-Calquier. Et de là, on commence les interrogatoires. Donc mes deux plus grands enfants sont interrogés. Donc ils racontent depuis leur souvenir, en fait, depuis leur enfance jusqu'au jour de la dispute. Ensuite, moi, je suis interrogée aussi. On est tous séparés pour faire voir, pour après, par la suite, comparer les interrogatoires.
Les témoignages, ouais.
Et là, tout correspond, en fin de compte. Et j'ai vu les gendarmes pleurer.
Ah oui.
Les gendarmes pleurer, et par rapport au témoignage de mes enfants, par rapport à mon témoignage aussi. Et moi, je ne réalisais pas. Pour moi, il n'y avait rien de bizarre et tout était normal. Et donc, c'est un médecin qui est passé pareil. Comme je ne pouvais pas me déplacer soit aux urgences ou je n'avais pas de médecin traitant non plus à ce moment-là. Donc, c'est les gendarmes qui ont fait déplacer un médecin directement au commissariat et qui m'a ausculté. Donc, ils prennent tous les détails des coups physiques, mais aussi des dégâts mentaux. Parce qu'il y a beaucoup de dégâts mentaux, hein, ce n'est pas que physique.
Pour vous et pour vos enfants?
Pour moi et pour les enfants, oui. Oui.
Comment on se remet de ça? Donc ça, c'était il y a 4 ans, il y a 2 ans?
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans?
Oui, le 23 janvier 2023.
Donc vous avez été logé où?
Alors, suite à ma plainte, c'est la gendarmerie qui a contacté un foyer, ici à Digne, le foyer des Méronettes. Mmh. Donc ils ont été contactés et ils m'ont réservé une place au foyer. Avec les 4 enfants, tout a été pris en charge. Mmh. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent. Mmh. Tout a été pris en charge et même le taxi pour m'amener jusqu'au foyer. Mmh. Tout ça, c'est les gendarmes qui ont tout organisé. Nous, on a juste eu à se laisser faire par le fait.
Oui. Mmh.
Donc, on a pu retourner chez nous à la suite de la plainte. Les gendarmes nous ont accompagnés à notre domicile où 2 taxis nous attendaient. Mmh. On pouvait rassembler nos affaires. Alors moi, j'ai décidé de partir sans rien. Mmh. Mais il était possible de prendre un sac de vêtements, des affaires sur nous, qui étaient transportables dans le taxi, bien sûr. Et donc, c'est les taxis qui nous ont transportés jusqu'au foyer des Méronettes.
Donc ça, pour revenir, donc c'était il y a 2 ans.
Oui.
On est en 2024. Donc vous avez été logé dans ce foyer avec les enfants.
Oui.
Comment... Avant ça, vous étiez séquestrée?
Oui, pendant 5 ans, j'étais
séquestrée. 5 ans,
oui.
À la maison?
Oui.
Sans jamais sortir?
Moi, je sortais les 5 dernières années, je ne suis pas du tout sortie. Donc, que ça soit pour faire les courses, même dans la cour. Les enfants faisaient école à domicile. Mon ancien mari, les prenait de temps en temps pour faire les courses.
Et eux, comment ils ont vécu ça? Alors, ça devait être aussi un traumatisme de ne pas sortir.
C'était un traumatisme, oui, parce que ça était très compliqué de rester enfermé à la maison. Mmh. Et puis, après, mon mari, lui, travaillait la journée. Donc, la journée, moi, j'essayais de trouver des occupations, j'essayais de leur mettre un peu de musique. On essayait de trouver des activités où qu'on pouvait s'amuser pendant que lui n'était pas là. Mmh. Et après, quand on voyait l'heure arriver, parce qu'il avait une heure fixe pour rentrer, on va dire qu'une heure avant, c'était la panique. Mmh. Parce qu'il ne fallait rien qui traîne dans la maison, il fallait que tout ça soit carré, que les enfants soient sages. Et il ne fallait pas que les enfants fassent voir non plus qu'ils s'est amusés.
Ah oui.
Donc il fallait qu'on reste vraiment neutre quand lui soit là.
Et vous parlez de votre enfant, votre fils de 15-16 ans à l'époque?
Oui, 15 ans.
Lui, il a décidé parce qu'il a eu peur que vous soyez morte en fait.
Oui.
C'est ça qui l'a poussé. Est-ce qu'il vous a parlé avant, vous dire « Maman, il faut qu'on sorte de là » ou...
Alors en fait, quand la dispute a éclaté...
Parce qu'il y en a eu d'autres avant.
Oui, il y en a eu d'autres. Ouais. Alors il y en a eu d'autres, mais en fait, quand la dispute a éclaté, les enfants étaient en train de faire des devoirs sur la table. Mmh. Et en fait, mon ex-mari a pris une poussette, un jouet d'enfant, une petite poussette, et a voulu la jeter sur la toute petite, qui était bébé à ce moment-là. Mmh. Donc, qui n'avait qu'un an, un peu plus d'un an. Et donc, moi, j'ai attrapé juste la petite de justesse. Et c'est moi qui ai pris la poussette dans la figure. Mmh. Et là, on a dit, quand on a vu qu'il allait taper sur la petite, on a dit, il ne va plus avoir de limite, quoi. Mmh. Parce que sur la toute petite, il n'y touchait pas. Et donc, je leur ai demandé de rassembler leurs affaires d'école et de partir de la pièce. Et c'est là que mon fils m'a dit, « Maman, il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester comme ça. Mmh. » Je lui ai dit, « Écoute, j'essaye de gérer, et si tu vois que ça va trop loin, fais ce qu'il y a à faire. Mmh. » Et donc, j'ai mis la petite couchée, et lui, il s'est occupé du reste, de mettre en sécurité ses sœurs. Et de s'éloigner de la maison pour pouvoir prévenir la gendarmerie.
Eh bien, quelle histoire, Audrey. Ben, vraiment. Oui. Comment on se remet de ça? Est-ce que vous avez retrouvé des contacts avec votre famille suite à cette séparation avec votre ex-mari?
Alors, oui. Les gendarmes ont pris contact avec mon papa qui habitait pas loin. Mm-hmm. Chose que je ne savais pas. J'ai été 8 ans sans voir mon papa. Parce que à la fin, j'étais complètement isolée, donc aucun contact extérieur. Donc les gendarmes ont retrouvé mon papa, ils l'ont contacté. Il a été interrogé aussi, mon père. Je ne l'ai pas revu directement, je l'ai revu 3 semaines après. Ensuite, le reste de ma famille, je n'ai pas pris contact directement avec. J'ai eu mes sœurs assez rapidement quand même. Ma mère, je ne l'ai pas contactée. Et puis, j'avais honte, en fait. J'avais honte de la situation, du fait... Alors, pas le fait des violences. C'était pas ça qui me faisait honte. C'était le fait que je savais qu'il y aurait séparation avec mon mari. Et donc, pour moi, c'était un échec. Et je me suis dit, j'ai pas arrivé à faire ce que je devais faire. Donc, du coup, c'était la honte, en fait. Mmh. Et j'ai repris seulement contact une fois que j'étais sortie du foyer.
Avec vos sœurs
ou avec le père? Avec ma mère.
D'accord.
Mmh. Et mon père, il est venu la dernière semaine que j'étais au foyer. Parce que j'avais des coups sur moi et je ne voulais pas qu'on voyait les coups. Mmh.
Et votre père, il a été au courant de ce que vous avez vécu?
Alors, pendant toutes ces années, non. Mmh. Alors, il savait que c'était quelqu'un qui était quand même assez violent, mais il ne pensait pas qu'il était violent avec moi. Et je n'ai jamais laissé paraître quelque chose. Et puis, j'aimais vraiment beaucoup mon mari. Et je l'aurais protégé. Si les gendarmes n'auraient pas intervenu, je l'aurais toujours protégé.
Et aujourd'hui, quel est votre sentiment? Alors, vous travaillez.
Oui.
Ça fait 2 ans que vous êtes séparés, protégés, on va dire.
Oui.
Il y a eu un jugement, c'est ça?
Il y a eu un jugement. On est passé au tribunal correctionnel, où il a eu une peine d'un an dans la prison, donc 4 mois avec sursis. Donc, qui n'a pas été fait en prison, qui a été fait sous bracelet électronique. par rapport aux circonstances, la peine devait être plus lourde, mais comme il était gérant de société, donc sa peine a été aménagée. Donc il a été, on va dire, pour moi, c'était une peine légère, et pour moi, il a été libre. C'est-à-dire que le bracelet ne fonctionne pas pour s'il m'approche, puisqu'il n'était pas réglé pour l'interdire de venir à Digne, par exemple. Mm-hmm. Puisque comme il était auto-entrepreneur dans le bâtiment, il pouvait se déplacer où il voulait. Donc, je veux dire, il n'a pas eu de peine.
Est-ce que vous avez eu peur donc, pendant ces deux ans au foyer ?
Oui. Alors, je suis restée au foyer qu'un mois. Mm-hmm. Un mois après, j'ai trouvé un appartement. Alors, ça a été une catastrophe parce que je me suis retrouvée toute seule dans un appartement avec aucune sécurité. Il y a eu un jugement qui donnait une interdiction de rentrer en contact et de m'approcher pendant 2 ans. Sauf que l'interdiction n'était pas respectée et personne ne m'écoutait quand je faisais des signalements, que ce soit au commissariat de police. J'ai jamais été entendue. Alors ça est passé par des mains courantes, par des plaintes qui ont été classées sans suite. Il y a d'ailleurs toujours des plaintes qui sont en cours et que je n'ai pas de nouvelles, qui datent d'un an. Et aucune protection. C'est-à-dire que s'ils venaient chez moi à mon domicile, j'avais juste à laisser faire. Et on m'a dit, tant qu'il n'y a pas de preuve qu'ils vous tapent, tant qu'il n'y a pas de preuve de viol, c'est-à-dire on m'a carrément dit, entre mari et femme, c'est très compliqué à prouver un viol, et il n'y a pas de viol entre mari et femme.
Alors que vous l'avez vécu.
Alors que je l'ai vécu. Et après le jugement que j'ai vécu.
Après
le jugement. Et là, on m'a dit, en gros, pour valider un viol, il aurait fallu que je contacte le commissariat pendant mon viol, pour prouver qu'il était bien en train de me violer, quoi. Et puis ça, c'était très, très, très dur, parce que ça veut dire qu'après moi, j'ai perdu confiance en la justice. Mmh. J'ai perdu complètement confiance aussi en moi. Et puis, je me suis renfermée complètement. C'est-à-dire que j'avais peur de sortir. J'avais peur de rester chez moi aussi, puisque je n'étais pas en sécurité de nulle part, finalement. Et donc, je passais mes journées à surveiller qu'il arrive. Je passais mes nuits à surveiller qu'il arrive. Et je dormais très, très peu. J'ai un stress post-traumatique, que d'ailleurs, 2 ans après, qui ne passe pas. Et avec des périodes où, que, pour moi, il est impossible de dormir. Je peux rester des jours et des jours sans dormir.
Et aujourd'hui, donc, vous avez trouvé du travail ?
Oui, ça fait 1 an que je travaille comme aide à domicile.
Mais vous êtes toujours dans cette crainte de le voir approcher ?
Oui, j'ai toujours cette crainte, parce que je sais que là, les 2 ans en plus d'interdiction vont s'arrêter au mois d'avril. Donc je sais que quand l'interdiction va s'arrêter, lui sera là. De toute façon, c'est ce qu'il déclare même lui auprès de la juge des applications des peines, auprès du service pénitentiaire. Lui signale que, quoi qu'il arrive, il me récupérera.
Mmh. Alors, il y a des structures quand même d'aide aux victimes de violences. Il y a le Centre d'information du droit des femmes et des familles, le CIDFF.
Oui.
Alors, est-ce que vous trouvez du soutien ? Est-ce qu'il y a des groupes de parole ? Est-ce qu'il y a moyen d'être épaulé ?
Oui. Alors moi, ça fait 2 ans donc, que je vois le CIDFF. Ils m'aident beaucoup. Quand ils voient que ça va très loin, parce qu'il y a des moments de rechute aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où que même moi je me pose la question, est-ce qu'il faut que je retourne avec lui ? Est-ce que si je retourne avec lui, est-ce que ça ira mieux ? Si je retourne avec lui, est-ce qu'il me laissera tranquille, quitte à mourir ? Je veux dire, autant mourir tout de suite et en finir, et plutôt que de mourir un jour chez moi ou qu'on me retrouverait plus tard ou dans la rue. C'est très compliqué pour une femme victime de reprendre une vie correcte après. Donc le CIDFF nous aide beaucoup pour ça. Et quand ils voient que la situation va vraiment trop loin, que le procureur ne fait pas beaucoup de choses, que le commissariat ne prend pas les plaintes ou qu'il classe les plaintes sans suite, alors qu'il y a réellement un danger, le CIDFF fait des signalements aussi auprès du procureur. Et ensuite, il y a la France Victime aussi. France Victime, une fois qu'on a déposé la plainte, il y a France Victime qui a un rôle aussi principal, qui travaille directement auprès du tribunal et qui évalue aussi la situation. Bien sûr, après, eux, ils font des demandes derrière. Après, c'est au procureur de valider ou pas.
Eh bien, quel courage il faut. Tout à l'heure, c'est vrai, quand on a commencé cette interview, vous me parliez que, heureusement que les gendarmes sont venus au moment où c'était dramatique, il y a 2 ans.
Oui.
Vous avez pu leur faire confiance à ce moment-là. Et aujourd'hui, il n'y a plus cette confiance. Vous êtes abandonnée finalement.
Oui, alors c'est ça. C'est où que j'ai eu une écoute et franchement un suivi mais extraordinaire par les gendarmes de Forcalquier, où ils m'ont même carrément expliqué qu'ils ont été formés pour aider les victimes, mais que les formations étaient récentes. Pourtant, on était bien en 2023. Mmh. Et il y a beaucoup de féminicides déjà en 2023. Et j'ai une écoute et un soutien et une enquête qui a été faite par derrière, vraiment extraordinaire. Et je les remercie vraiment beaucoup, parce que je le dis, c'est eux qui m'ont sauvé la vie. Bien sûr, mon fils, mais le travail qu'ils ont fait, c'était extraordinaire. Et par contre, par la suite, le commissariat, donc le service de police, puisque pour Digne, c'est le commissariat de police, j'ai eu de l'écoute par certaines femmes. J'ai eu un homme qui a retourné complètement la situation et qui m'a carrément dit que ce qui est arrivé, c'était de ma faute. Parce que tout ce qui est emprise, tout ça, à mon avis, il n'était pas formé. Ensuite, je pense que c'est devenu tellement banal aussi. Et je pense qu'ils ont beaucoup de dossiers et que malheureusement, ils ne sont pas assez formés derrière. Et donc l'écoute et le soutien que j'aurais dû avoir et les plaintes avec preuves, parce que quand après j'ai compris le système, c'est-à-dire que j'allais déposer plainte avec les preuves, avec mon dossier qui était tout prêt. Et même ça, je veux dire, il y a des plaintes qu'on m'a refusées ou qu'on mettait simplement des mains courantes avec, on me mettait problèmes familiaux comme motif. Donc il y a eu plein d'erreurs dans mes dossiers. Et là, j'étais dégoûtée de la justice. Des policiers, de la justice et du procureur. Parce que le procureur connaissait très bien mon dossier. Il savait très bien que j'étais en danger. D'ailleurs, le CIDFF avait eu un rendez-vous et le procureur avouait que j'étais en très grand danger. France Victime avait signalé que j'étais en très grand danger et qu'il me fallait un bracelet anti-rapprochement, chose que j'avais le droit et que j'ai jamais eu à ce jour. Et là, je me suis sentie complètement abandonnée. Parce que finalement, il fallait que j'assume seule ma protection et que j'assume seule s'il lui est arrivé, et ce que je pouvais faire, moi, pour me défendre. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, je refuse qu'il voie les enfants ne veulent pas le voir. Il a été jugé coupable aussi d'avoir violenté les enfants. Donc les enfants ne veulent pas voir, et donc moi, je refuse de lui présenter les enfants, sachant qu'il a gardé l'autorité parentale. Donc aujourd'hui, il y a eu une non-représentation d'enfants, et donc aujourd'hui, c'est moi qui risque la prison pour ça, juste pour pouvoir protéger mes enfants.
Ah, c'est aberrant. Mm. Et aujourd'hui, comment vous vous sentez? Donc, on entend bien que 2 ans où il n'a pas le droit de vous approcher, il vous approche quand même, il vous violente quand même. Et malgré tout, il va être... ça se termine en avril quand?
Oui, avril 2025.
En avril 2025, oui. Là, il a le droit encore de vous approcher.
Alors là, il aura le droit de tout. Il n'aura plus de limite.
Mais vous êtes divorcé?
Alors, comme c'était qu'un mariage religieux, il n'y a pas de divorce. Ouais. Donc, il y a une simple séparation. Mais si lui décide de venir à la maison, de venir voir les enfants, de m'approcher, de venir chez moi, eh bien, il a tous les droits.
Mais vous avez le droit de fermer la porte à clé aussi.
J'ai le droit de fermer la porte à clé. Sauf que c'est ça qui est très compliqué, c'est que comme il a toujours l'autorité parentale à ce jour, eh bien, il peut prendre prétexte qu'il vient voir les enfants et la justice peut le laisser rentrer chez moi.
Il y a aussi des mesures de sécurité, rassurez-moi, qui existent, que, étant donné son parcours, sa violence, il pourrait peut-être voir les enfants chez vous, mais avec un médiateur.
Alors non, une fois que l'interdiction...
Avec un témoin, quelqu'un de...
Alors il y aurait des visites médiatisées à ce jour qui seraient possibles à faire, sauf que lui les refuse parce qu'il ne veut pas... Il ne veut pas s'occuper de toute façon des enfants, hein. Il ne paye pas quelque chose pour les enfants, il ne les voit jamais et il ne demande pas non plus à les voir. Lui, sa seule obsession, c'est de m'approcher et de me récupérer. Donc aujourd'hui, il y aurait possibilité d'avoir une visite médiatisée dans des lieux médiatisés. Donc lui, il les refuse. Mais donc il y a cette problématique qu'au mois d'avril, l'interdiction est finie. Et donc là, il peut venir comme il décide, sans moi que j'ai de sécurité derrière. Donc ça veut dire qu'au mois d'avril, toutes mes protections, qui n'ont pas forcément en plus fonctionné jusque-là, oui. J'en aurai plus du tout.
Quel est votre sentiment aujourd'hui? Donc c'est quoi? C'est de la colère? C'est de la tristesse? C'est de l'envie de mourir? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous maintient en vie aujourd'hui?
Alors ce qui me maintient en vie, c'est mes enfants, parce qu'il faut que je me batte jusqu'au bout pour mes enfants. Et puis j'ai souffert pendant plus de 18 ans. Et les 2 ans, j'ai beaucoup souffert pour me reconstruire, pour aider mes enfants aussi à se reconstruire.
Est-ce qu'ils vont à l'école aujourd'hui ?
Oui. Alors, quand j'ai quitté mon mari, justement, aussitôt, j'ai fait les demandes pour inscrire les enfants, parce que c'est très compliqué, comme ils étaient scolarisés à domicile. Donc, il a fallu faire une remise à niveau, il a fallu, pour faire un dossier de réinscription, c'est très, très compliqué. Il aurait fallu que le papa aussi autorise les enfants à reprendre une scolarité. Ça a été très, très compliqué pour faire les dossiers. Donc là, ça fait qu'un an que les enfants ont récupéré une scolarité normale. Mais après, moi, j'ai la rage, parce que le système n'est pas cohérent. Il n'y a pas de protections qui sont mises forcément en place et puis qui ne sont pas respectées. Je trouve que la victime, à la fin, devient finalement, elle, la méchante, et que le méchant devient victime, puisque eux ont tous les droits, finalement. Moi, je dois payer un psychologue à 50 € la séance, que je dois toujours aller voir au moins 2 fois par semaine. Et lui a un suivi psychologique obligatoire à faire, mais qui est gratuit. Voilà, donc moi, pour me soigner de ce qu'il m'a fait, je dois payer. Et lui, pour soigner son délire, en gros, c'est gratuit. Donc c'est la justice qui est comme ça, malheureusement. Donc tous les frais médicaux que je dois aller faire, les thérapies, les psychologues, j'ai fait des séances de MDR, j'ai fait un tas de choses pour m'en sortir. Tout ça, c'est moi qui dois payer. Et ça revient très très cher.
Donc pour l'instant, vous avez un travail ? Travail à plein temps ?
Non, temps partiel.
Temps partiel ?
Oui.
Et malgré tout, vous avez, quels sont vos, est-ce qu'on peut dire, des souhaits pour l'année 2025 ? Vous aviez envie d'être dans le soin, enfin vous apportez aussi du soin, si on peut dire.
Alors oui, je suis actuellement donc aide à domicile. En parallèle, je suis étudiante pour devenir auxiliaire de vie. Et je voudrais bien faire ma rentrée en septembre l'année prochaine en école d'infirmière.
Donc malgré tout ça, vous avez de l'espoir ?
Alors l'espoir, oui, il en faut pour s'en sortir. Mais je suis très combattante. Et en fait, cette injustice a fait que je suis devenue très combattante. Et j'ai envie de m'en sortir vraiment. Et de faire voir aux gens qu'on peut être victime, mais s'en sortir. Et que ça soit sur une petite période, une longue période de malheur. Il est toujours possible de s'en sortir. Et puis, il faut garder le sourire. Et puis, je sais que c'est très très compliqué d'ailleurs, moi après 2 ans de séparation, j'ai beaucoup de séquelles encore. J'ai un stress post-traumatique qui ne passe pas, mais on peut apprendre à vivre avec et on peut apprendre une vie correcte. Normal, c'est très compliqué, mais correct et être heureux.
Donc vous avez quel âge aujourd'hui ?
J'ai 37 ans.
37 ans. Est-ce que vous avez le sentiment d'un gâchis de toutes ces années ?
Alors... J'ai eu une période où que je m'en suis beaucoup voulu, où que je me suis dit j'ai gâché ma vie, parce que j'ai donné 18 ans de ma vie à quelqu'un qui ne l'a pas mérité. Et aujourd'hui, on va dire que j'ai travaillé beaucoup sur moi et que je fais preuve de beaucoup de résilience et que je me dis, c'est la vie que j'ai eue avant, en fait, elle m'a appris beaucoup de choses. Et finalement... Je suis très contente de la vie que j'ai eue avant. Alors, pas des souffrances et de ce que j'étais victime, mais je remercie finalement du mal que j'ai eu quand même, parce que c'est ça qui m'aide aujourd'hui à avancer et à être très combattante et à vouloir faire quelque chose.
Plus jamais ça ? Voilà. Est-ce qu'on peut se dire plus jamais ça ?
Alors, moi, je me dis toujours plus jamais ça.
Parce que vous dites, malgré tout ce que vous avez vécu, que vous l'avez aimé, que vous étiez engagée pour la vie avec ce devoir d'être une femme, une bonne épouse, une bonne...
Oui.
Malgré tout ça, vous avez réussi quand même à voir le véritable homme que vous aviez en face de vous.
Oui, c'est ça. Alors attention, ça fait que 2 ans que je suis séparée. Il y a très peu de temps que je vois son vrai visage. C'est-à-dire que pour moi, c'était quelqu'un qui... Au début, j'ai cru que c'était quelqu'un que finalement, il avait un problème mental et que ça pouvait se soigner et que j'arriverais à le soigner. Et avec les thérapies que moi, j'ai faites, finalement, je me rends compte que c'est une personne qui ne pourra pas changer puisque c'est vraiment une maladie mentale et qu'on ne pourra pas le soigner. Quoi qu'on fasse, je ne suis pas une sauveuse. Et que personne, finalement, que ce soit moi ou une autre femme... peut sauver quelqu'un comme ça. Je pense que même avec des suivis, les médecins ne pourront pas faire quelque chose et que la personne, déjà, si elle ne voit pas le mal qu'elle fait, il n'y a rien à faire pour eux, quoi.
Vous pensez qu'il ne se rend pas compte ?
À l'heure d'aujourd'hui, par rapport au rapport, parce qu'on passe régulièrement dans les tribunaux, au niveau du JAF, au niveau des juges des applications des peines, tout ça, par rapport au rapport que j'entends, non, il s'en rend pas compte. Il dit que la violence, finalement, il n'y a pas eu de grosse violence, alors qu'il y a eu toutes les formes de violence. Ensuite, il dit qu'il va me récupérer dans n'importe quel cas. Donc, morte ou vivante, ça ne le gêne pas, mais que ça sera lui qui mourra en dernier et qu'il ne laissera pas poser sa main à quelqu'un d'autre sur moi. Donc, ça prouve bien que cette personne-là n'est pas consciente du mal qu'elle fait et qu'elle ne pourra pas changer.
Vous avez de la colère, de la haine contre lui, parfois, ou...
Alors, j'ai eu beaucoup de haine, j'ai eu beaucoup de colère. Et aujourd'hui, je me dis que je préfère rester indifférente. Parce que si je ressens de la colère, de la haine, c'est toujours lui apporter de l'attention. Et je ne veux plus lui apporter d'attention. J'ai envie de passer à autre chose. Pas d'oublier, puisque ce que j'ai vécu, c'est mon passé, ça fait partie de ma vie et ça m'aide à avancer. Mais si je fais comme si lui n'était pas là et comme s'il n'avait pas existé, je lui apporte plus d'attention. Et donc, il n'a plus de valeur à mes yeux.
Audrey, est-ce que vous avez maintenant donc, la possibilité de parler avec le CIDFF, avec le psychologue, ou est-ce que vous avez réussi à vous faire un réseau d'amis? Est-ce que vous êtes sortie de cette séquestration qui a été longue?
Alors oui, je suis sortie. Alors le CIDFF m'a beaucoup aidée puisqu'on avait des groupes de parole. Mais je suis restée très très renfermée et c'était très compliqué pour moi de parler. Parce qu'après il y a eu beaucoup de honte d'avoir accepté, d'accepter beaucoup de choses comme ça. Parce qu'on se dit, mais au fur et à mesure qu'on avance... dans l'après, on se rend compte qu'on a accepté beaucoup de choses qui étaient vraiment insupportables. Et là, moi, je me suis renfermée. Et vu que j'étais des années sans avoir de vie sociale, ça a été très, très compliqué. Je dirais que c'est plutôt mon travail qui m'a aidée. Parce que c'est un travail où il faut que je discute beaucoup avec les gens, où il faut que j'apporte mon soutien aussi aux gens. Et c'est ça qui m'a fait voir que je pouvais le faire et que j'étais capable de le faire surtout.
Est-ce que, à votre tour, vous avez envie de donner un message à toutes ces femmes victimes de violences?
Oui, je leur dirais que, alors celles qui sont encore dedans, qu'il faudrait qu'ils partent, que c'est pas une vie. Alors quand on est à l'intérieur, c'est très compliqué puisque l'emprise, on croit qu'on aime la personne et que finalement c'est pas de l'amour, c'est simplement de l'emprise et qu'il faut se sauver. Alors que ça soit sur une courte ou longue période, qu'il faut absolument pas rester. Parce que ça commence par un mot, par une gifle, et à la fin, on retrouvera toujours la personne morte. Donc il faut se sauver vraiment avant que ce soit trop tard.
Audrey, merci beaucoup pour ce témoignage difficile et douloureux. On a envie de conclure de façon positive. J'ai envie de rebondir sur vos enfants. Oui. Est-ce que le fait d'être à nouveau ensemble dans cet apprentissage de la vie sociale aussi, est-ce que ça vous a soudé aussi ou est-ce que c'est difficile aussi de communiquer avec vos enfants?
Alors,
est-ce qu'on peut dire que c'est maintenant une tribu?
Alors oui, on est très très soudés. Alors je ne veux pas dire qu'on est inséparables parce qu'on a chacun nos trucs maintenant bien séparés et distincts. Mais on n'arrive pas à se séparer, c'est-à-dire qu'on est très très soudés. On va s'appeler 10 fois par jour. Pour rien, pour tout, et on ne va pas rater un repas tous ensemble. Si on a 5 minutes dans la journée, ça sera 5 minutes qu'on sera ensemble. On est très très soudés, on a été très soudés pendant la période où on était séquestrés. Et après la période de séquestration, je crois que le fait qu'on soit toujours tous ensemble, ça nous a donné une force vraiment incroyable.
Est-ce que vous arrivez à communiquer sincèrement avec eux et est-ce qu'eux se confient à vous?
Oui, alors on a beaucoup de chance, c'est-à-dire que nous, on a toujours été ouverts à toutes les discussions avec les enfants. Alors que ça soit des discussions difficiles ou faciles, on a toujours été clairs, on a rentré toujours dans les détails, que ça fasse mal ou pas mal, mais on a toujours été ouverts à toutes les discussions. Et c'est ça qui nous a beaucoup aidés. Je pense qu'il ne faut pas cacher à un enfant la situation, qu'il ne faut pas lui cacher que ça va être très dur, parce qu'un enfant, c'est... Bah, c'est innocent, un enfant. Donc forcément, il faut le préparer. Il faut le soutenir beaucoup. Parce qu'à un moment où que ça va être très compliqué, si on ne le soutient pas, l'enfant, eh ben, il ne va pas tenir. C'est-à-dire qu'il peut partir vraiment du mauvais côté. Ou qu'il va, finalement, qu'il y aura un moment de liberté, eh ben, il va sortir. Il va se mettre à boire, il va se mettre à fumer. Alors, je ne parle pas pour tout le monde, mais en général, quand il voit qu'il y a une forme de liberté, finalement, après un moment de séquestration ou un moment de douleur, l'enfant peut en profiter et se lâcher complètement. Et c'est pour ça que moi, j'ai tenu à être ouverte à toutes les discussions. Alors, il faut laisser une liberté à l'enfant, mais tout en restant... Ça, c'est très compliqué à faire. C'est-à-dire, il faut laisser une forme de liberté, mais tout en laissant des limites, toujours. Parce que s'il n'y a pas de limites, ça ne peut pas fonctionner.
Merci, merci beaucoup Audrey pour votre témoignage. Qu'on rappelle évidemment que les violences faites aux femmes, c'est atroce. Ça fait des dommages sur vous, mais pas seulement. Pour les enfants, enfin, la famille,
pour l'entourage.
C'est des dégâts psychiques, psychologiques.
Oui, pour l'entourage.
Il faut du temps pour se reconstruire.
Oui, l'entourage, c'est très compliqué aussi, puisque eux ne voient pas forcément ce qui s'est passé. Et puis après, ils s'en veulent beaucoup de ne pas avoir vu et de ne pas avoir fait quelque chose aussi.
Et vous, est-ce que vous en voulez aux personnes qui n'ont rien fait? Oui, au niveau de la justice, oui.
Alors, au niveau de la justice,
mais au niveau amical ou social
Non, pas du tout. Parce que c'est moi qui a coupé finalement les ponts avec tout le monde. C'est moi qui me suis renfermée. Et je pense que c'est moi qui l'ai voulu comme ça aussi, hein, puisque je ne voulais pas qu'ils voient quelque chose. Après, ça a été très dur de leur avouer ce qui s'était passé. Ça a été très dur aussi d'accepter pour mon entourage. Et puis, après, il y a certaines personnes qui ne veulent pas admettre aussi. Parce que, ben, on peut avoir une claque et partir directement. On n'est pas obligé de rester. Et donc, certaines personnes ben, vous soutiennent. D'autres vous lâchent complètement. Que ça soit famille proche ou amis. Chacun réagit à sa façon, quoi. Et ça, c'est très dur pour l'entourage. Mais après, j'en veux à personne du tout, puisque, je veux dire, chacun réagit comme il peut et comme il veut.
Donc, ça va être les fêtes de Noël qui approchent. Est-ce que c'est un moment douloureux pour vous ou est-ce qu'il va y avoir de la joie?
Alors, il va y avoir beaucoup de joie, parce que c'est des fêtes qu'on ne faisait pas avant. Donc là, on se fait plaisir avec les enfants. Et puis, c'est le moment de penser aux belles choses qu'on a fait dans l'année aussi. J'ai malheureusement perdu ma maman il n'y a pas longtemps. Mais c'est une façon aussi de passer à autre chose et de dire, bah, le plus dur est passé. Et comme on disait tout à l'heure, bah, plus jamais ça. Et puis, de venir en aide peut-être à certaines personnes qui en ont besoin. Noël, c'est un moment de partage. Donc, autant aider les gens qui en ont besoin et puis de soutenir ceux qui en ont besoin aussi.
En tout cas, on vous sent pleine de force et d'espoir. Je vous souhaite tout le meilleur à venir. Audrey, merci encore pour avoir eu ce courage de parler sincèrement de votre histoire douloureuse. Et puis, je vous souhaite évidemment de bonnes fêtes de Noël avec vos enfants et puis plein de belles choses à venir. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Pour qui, comment, quand et pourquoi? Contre qui, comment, contre quoi? C'en est assez de vos violences. D'où venez-vous? Où allez-vous? Qui êtes-vous? Qui priez-vous? Je vous prie de faire silence. Pour qui, comment, quand et pourquoi? S'il faut absolument qu'on soit contre quelqu'un ou quelque chose. Je suis pour le soleil couchant en haut des collines désertes. Je suis pour les forêts profondes. Car un enfant qui pleure, qu'il soit de n'importe où, est un enfant qui pleure. Car un enfant qui meurt au bout de vos fusils est un enfant qui meurt. Que c'est abominable d'avoir à choisir entre deux innocents. Que c'est abominable d'avoir pour ennemi le rire de l'enfance. Pour qui, comment, quand et combien? Contre qui, comment et combien? À en perdre le goût de...
un papin dans le square des Batignolles. Et pour rien, pour presque rien, pour être avec vous et c'est bien, mais pour une rose entr'ouverte, et pour une respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Ne rien avoir, mais passionnément, ne rien se dire éperdument, ne rien savoir avec ivresse, et riche de la dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Ne pas parler de poésie, ne pas parler de poésie, en écrasant les fleurs sauvages, et faire jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube n'a jamais sa chance. Contre qui ou bien contre quoi, pour qui, comment, quand et pourquoi, pour retrouver le goût de vivre, le goût de l'eau, le goût du pain et celui du perlimpinpin dans le square des Batignolles. Pour une respiration, et pour un souffle d'abandon, et pour un jardin qui frissonne. Et vivre, vivre passionnément, et ne combattre seulement qu'avec les feux de la tendresse. Et riche de dépossession, n'avoir que sa vérité, posséder toutes les richesses. Jouer la transparence au fond d'une cour au mur gris, où l'aube aurait enfin sa chance.